Vous écoutez On lit pour vous.
Nouveau record de plaintes. Un texte de Suzanne Colperon, paru le 18 juin 2026 dans la presse. Le nombre de plaintes déposées à l'Office québécois de la langue française, OQLF, a atteint un nouveau sommet en 2025-2026, selon des données publiées jeudi le 18 juin 2026 par l'organisme. L'OQLF a reçu 11 125 plaintes liées au respect de la Charte de la langue française entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026, contre 10 371 l'année précédente, qui constituait déjà une année record. L'augmentation de 7 % porte ainsi le nombre de plaintes à un nouveau sommet. Ces statistiques confirment une tendance à la hausse observée depuis plusieurs années. L'organisme y voit le signe d'une préoccupation croissante des Québécois à l'égard de leur droit de recevoir des services, de travailler et d'être informés en français. La langue de service demeure le principal motif de plainte, comptant pour 35 % des dossiers. Les plaintes visant la documentation commerciale suivent de près avec 33 % du total, comparativement à 24 % en 2024-2025. Cette catégorie comprend notamment les sites Internet, les réseaux sociaux, les offres d'emploi, les factures et les contrats. Les plaintes concernant les sites sont passées de 14 % à 19 % du total en un an, tandis que celles visant les réseaux sociaux ont plus que doublé, de 4 % à 9 %. Les plaintes relatives à l'affichage public et commercial représentent 16 % du total. Celles touchant la langue des produits, comme les inscriptions sur les emballages et les modes d'emploi, comptent pour 6 %, alors que les plaintes liées à la langue de travail représentent 5 %. Les données montrent aussi une forte concentration des plaintes dans la région métropolitaine. Plus de la moitié des organisations visées, soit 51 %, étaient situées à Montréal. La Montérégie suit avec 10 % des plaintes, devant l'Outaouais 9 %, la Capitale-Nationale 6 % et Laval 6 %. Selon l'OQLF, son intervention vise d'abord à amener les entreprises à se conformer à leurs obligations linguistiques. L'organisme affirme que 95 % des entreprises visées par une plainte fondée apportent les correctifs demandés. C'était « Nouveau record de plaintes », un texte de Suzanne Colperon, paru le 18 juin 2026 dans la presse.
Résilience Montréal souhaite redonner leur dignité aux personnes itinérantes. Un texte de Justine Bouchard-Girard, paru le 18 juin 2026 dans Le Devoir. Salles insonorisées pour pouvoir crier ses souffrances, buanderie, rencontres avec des professionnels et plus encore. Le nouveau centre Résilience Montréal, situé sur l'avenue Atwater, regorge de services pour mieux répondre aux besoins grandissants des personnes en situation d'itinérance, dont une grande partie est inuite ou issue des Premières Nations. Favoriser le vivre ensemble. Voilà la pierre angulaire du centre qui ouvrira officiellement ses portes à la communauté itinérante dans les prochaines semaines. On veut anticiper les plaintes des voisins pour favoriser la cohabitation et éviter les irritants, admet son directeur général, David Chapman. Par exemple, une terrasse entourée d'un mur anti-bruit a été aménagée sur le toit pour permettre aux sans-abri de fumer et de socialiser. Lorsque les personnes en situation d'itinérance vont être là, elles ne seront pas en train de flâner dans le voisinage. Nous sommes très conscients que certains voisins ne veulent pas les voir, les entendre ou les sentir, se désole M. Chapman. Le centre de bien-être était établi depuis 2019 dans un ancien restaurant Pour pallier le manque de ressources d'aide près de la place Cabot, où de nombreux décès liés à des surdoses d'alcool et d'opioïdes ont été répertoriés ces dernières années. La majorité des morts étaient des Autochtones. Pour bonifier ses services et compromettre sa clientèle, Résilience Montréal a décidé de déménager sur l'avenue Atwater à 10 minutes à pied de son emplacement précédent. Le Devoir est allé visiter le nouveau centre de 3 étages bâti dans un ancien magasin d'antiquités. Les communautés autochtones ont été consultées lors de la conception de cet espace sécuritaire, comme le surnomme Nakuset, qui œuvre auprès des femmes autochtones en situation d'itinérance. Retrouver une forme de dignité. Avec ses tables de bistrot et ses grandes fenêtres, l'allure du centre est bien loin de l'austérité de bien d'autres ressources d'aide. Car les gens en situation d'itinérance ont aussi le droit d'avoir quelque chose de beau et de digne, soutient la militante d'origine Cree, Nakuset. Nous avons un programme de préposés à la buanderie, de concierges et de cuisiniers, en plus d'une équipe qui nettoie autour du bâtiment. C'est important pour nous de favoriser l'intégration au marché du travail, ajoute David Chapman. Le centre possède aussi une salle de lavage où les personnes sans domicile fixe peuvent aller nettoyer leurs vêtements gratuitement. Certains itinérants gardent les mêmes habits pendant des mois et quand ils deviennent des haillons, ils les laissent sur la place publique, illustre le directeur général. La buanderie est un moyen pour eux de retrouver une forme de dignité. Respecter les cultures autochtones. Dans des salles intimes faites de matériaux chaleureux comme le bois, les membres des communautés autochtones peuvent, entre autres, rencontrer des professionnels de la santé, des juristes et des policiers. Une intervenante sociale est présente pour aider certains usagers à gérer leurs traumatismes, notamment ceux liés au suicide, qui touchent particulièrement la communauté inuit. Des salles insonorisées sont aussi mises à leur disposition pour qu'ils puissent extérioriser leurs souffrances s'ils en ressentent le besoin. Les matériaux, la lumière naturelle et l'agencement des pièces ont été choisis pour favoriser le recueillement. On voulait que les gens se sentent à la maison, lance Nakuset. Et puisque de 25 à 40% des usagers sont inuits, c'est important pour Résilience Montréal que leurs besoins soient pris en compte. Chaque semaine, nous fournissons de la nourriture du Nord, comme du caribou et de l'omble chevalier, mentionne David Chapman. Des artistes autochtones ont aussi réalisé des œuvres d'art et inspiré l'architecture du centre. Par exemple, une pièce qui rappelle une maison longue ou encore une porte incrustée dans ce qui ressemble à un arbre. En plus de redonner de la dignité aux Autochtones en situation d'itinérance, le centre remplit aussi cette mission pour les Allochtones, fait valoir M. Chapman. Malgré les difficultés financières qui ont failli mettre en péril le projet, Résilience Montréal a finalement réussi à obtenir de l'argent des 3 ordres gouvernementaux, mais aussi de fondations, d'entreprises, d'organismes communautaires et de donateurs. C'était Résilience Montréal souhaite redonner leur dignité aux personnes itinérantes. Un texte de Justine Bouchard-Girard, paru le 18 juin 2026 dans Le Devoir.
Pesticides. Une refonte du système est nécessaire. Un texte de Laurence Niozzi, paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Difficile de parler d'agriculture durable sans s'interroger sur l'usage des pesticides. Deux experts dressent un constat préoccupant. Lacunes dans les données disponibles, sous-évaluation des risques cumulés et cadre réglementaire inadéquat face aux réalités actuelles. Avec près d'un million d'hectares de maïs et de soya cultivés de façon industrielle au Québec, atteindre les objectifs de réduction de pesticides pose un défi majeur. Mais avant même de parler de transition agricole, encore faut-il savoir ce que l'on épand réellement dans les champs. Pour la sociologue Louise Vandelac, le véritable angle mort du débat sur les pesticides réside dans l'opacité des données et dans les failles du système d'évaluation réglementaire. Il y a une sous-estimation chronique des quantités épandues, affirme la professeure au département de sociologie et à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Les données de Santé Canada font état d'environ 300 000 kg de glyphosate vendus annuellement. Or, d'après les informations obtenues par son équipe en 2023 à la suite de demandes d'accès à l'information, les ventes atteindraient plutôt 469 000 kg et jusqu'à 1,17 million de kg si l'on tient compte de l'ensemble des formulations commerciales d'herbicides à base de glyphosate. Cela représenterait près de 4 fois les quantités déclarées pour la seule matière active. En effet, le glyphosate commercial n'est pas qu'une molécule isolée. Les produits disponibles sur le marché contiennent des coformulants, surfactants, métaux lourds, comme l'arsenic, le chrome, le nickel ou le cobalt, ainsi que d'autres composés rarement intégrés aux évaluations réglementaires. Certaines de ces substances sont interdites dans l'Union européenne en raison de leur toxicité. Nos formulations commerciales peuvent être jusqu'à 1000 fois plus toxiques que la molécule évaluée seule, précise Louise Vandelac. À cela s'ajoute l'effet des cultures génétiquement modifiées, conçues pour tolérer des doses élevées d'herbicides. Elles peuvent recevoir jusqu'à 25 % de glyphosate supplémentaire, ce qui accroît l'exposition des sols, de l'eau et des populations. Pour la chercheuse, l'enjeu n'est donc pas uniquement quantitatif. Il concerne aussi les effets cumulatifs, les interactions entre les substances et les transformations ultérieures dans l'environnement. Parler de risque acceptable n'a pas de sens si l'on ignore les effets cocktails, les biotransformations et les limites planétaires déjà dépassées, souligne-t-elle. Elle remet également en cause le fonctionnement des instances réglementaires. Lors de la réévaluation du glyphosate en 2017, Santé Canada s'est appuyé sur des études souvent produites par l'industrie elle-même, dont l'une, très influente, a même été rétractée fin 2025, en raison de conflits d'intérêts entre les scientifiques signataires de l'étude et Monsanto, producteur du Roundup et de son principe actif, le glyphosate. Les révélations des Monsanto Papers, un ensemble de documents de la compagnie rendus publics à partir de 2017, ont d'ailleurs montré comment certaines données ont pu être orientées pour soutenir l'homologation des herbicides à base de glyphosate. Selon Louise Vandelac, la réponse ne se limite donc pas à réduire les volumes. Elle passe par une refonte complète des processus d'évaluation, une transparence accrue sur les formulations intégrales et un soutien public réel à la transition vers des pratiques agricoles utilisant le minimum d'intrants. Les pesticides ne s'arrêtent pas aux champs. Le devenir des pesticides dans les écosystèmes préoccupe également Lise Parent, professeure en sciences de l'environnement à l'Université TELUC
et spécialisée en écotoxicologie aquatique. Elle s'intéresse aux pesticides depuis une dizaine d'années, après avoir constaté que les concentrations et les quantités utilisées continuaient d'augmenter. Ces travaux menés en Montérégie ont révélé la présence généralisée de pesticides dans les rivières, mais aussi et surtout de leurs produits de transformation. Ces composés, formés lors de la dispersion des produits dans l'environnement, représentent une part importante de la contamination totale et peuvent être aussi, voire plus toxiques que les molécules d'origine. Or, la surveillance réglementaire se concentre principalement sur les ingrédients actifs déclarés, ce qui laisse dans l'ombre une portion importante de l'exposition réelle. En laboratoire et sur le terrain, son équipe a également démontré que les mélanges de pesticides produisaient des effets cumulatifs chez les organismes aquatiques. Des moules exposées en aval de zones agricoles présentaient des altérations biologiques mesurables en peu de temps. On est déjà alarmé par les concentrations, mais on serait encore plus si on intégrait pleinement les effets combinés, souligne la chercheuse. Cette réalité remet en question l'approche classique d'évaluation substance par substance. Lise Parent connaît bien les leviers réglementaires. Elle a travaillé au Plan d'action Saint-Laurent, PASL, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, un programme qui a permis une réduction d'environ 95 % des rejets liquides industriels grâce à une réglementation sévère et à des exigences claires imposées aux entreprises. Pour elle, cette expérience prouve qu'une transformation rapide est possible lorsqu'il existe une volonté politique ferme. Aujourd'hui, elle estime que la transition agricole exige le même courage. Depuis 1992, dit-elle, les plans se succèdent sans infléchir durablement la courbe des usages. Plutôt que de proposer de remplacer une molécule par une autre, elle plaide pour une réforme en profondeur, encadrer plus strictement les pesticides, soutenir financièrement les agriculteurs et agricultrices dans la transition et intégrer pleinement les effets des mélanges et des perturbateurs endocriniens dans l'évaluation des risques. On l'a déjà fait pour l'industrie. On peut le faire pour l'agriculture. C'était Pesticides. Une refonte du système est nécessaire. Un texte de Laurence Niozzi paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science.
Daniel Léveillé, 1952-2026, un maître de la danse contemporaine s'éteint, un texte de Fabien Philippe, paru le 10 juin 2026 dans Fugue. Le monde de la danse contemporaine québécoise est en deuil. Le chorégraphe, danseur, pédagogue et artiste visuel Daniel Léveillé est décédé le 8 juin 2026 à Montréal des suites d'un cancer de la gorge. Il avait 73 ans. Figure incontournable de la danse contemporaine au Québec depuis près d'un demi-siècle, Daniel Léveillé laisse derrière lui une œuvre singulière, exigeante et profondément humaine qui a marqué plusieurs générations d'artistes et de spectateurs. Reconnu pour son exploration du corps, dans toute sa vulnérabilité, sa force et son imperfection, il a construit un langage chorégraphique unique qui a rayonné bien au-delà des frontières québécoises. Né le 24 novembre 1952 à Sainte-Rosalie, Daniel Léveillé découvre la danse à la fin des années 1970, après avoir amorcé un parcours en architecture. Cette rencontre avec le mouvement et la création transforme sa vie. Il se forme notamment auprès de Laurence Gradius, à l'école entre 6 et participe aux activités du groupe Nouvelle Ère, véritable laboratoire de la danse contemporaine québécoise. Très tôt, il affirme une personnalité artistique distincte. À la fin des années 1970, il signe ses premières chorégraphies avec la jeune danseuse Louise Le Cavalier, qui deviendra plus tard une figure légendaire de la danse internationale. À la même époque, il est également choisi par Françoise Sullivan lors du retour à la scène de la pionnière de l'automatisme et de la danse moderne québécoise. Au cours des années 1980, Daniel Léveillé développe progressivement une écriture chorégraphique caractérisée par sa rigueur formelle, sa musicalité et son attention minutieuse aux possibilités du corps humain. Son parcours croise alors celui de nombreux créateurs du théâtre et de la danse québécoise. En 1985, il collabore notamment avec le metteur en scène Denis Marlot pour la création de Théorème 85, adaptation de l'œuvre de Pier Paolo Pasolini présentée au théâtre de Quatsou. Parmi les interprètes figure Martin Fauché, qui deviendra plus tard son compagnon de vie, avant de demeurer l'un de ses plus proches amis. Daniel était mon présent, a confié Martin Fauché au lendemain de son décès. Je suis profondément admiratif de son œuvre chorégraphique. Plusieurs passages de ses pièces me faisaient monter les larmes aux yeux. Aujourd'hui, c'est son départ qui me fait pleurer. En 1991, Daniel Léveillé fonde sa propre compagnie, Daniel Léveillé Danse, DLD, qui deviendra le principal véhicule de son œuvre. Pendant près de 30 ans, il y développe une démarche artistique radicale où le corps occupe toute la place. Dans plusieurs de ses créations, les interprètes apparaissent nus ou presque nus, non pas dans une perspective provocatrice, mais pour révéler l'humanité fondamentale des êtres. La peau est le seul vêtement que le corps puisse véritablement porter, disait-il à propos de cette présence récurrente de la nudité dans son travail. Son œuvre explore, avec une rare intensité, la fragilité, la solitude, le désir, la douleur, la résistance et la mortalité. Chaque mouvement semble chercher à dévoiler ce qui se cache sous les apparences, au plus profond de l'expérience humaine. Parmi ses créations les plus marquantes figurent « Le sacre du printemps »,« Amour »,« Acide et noix »,« La pudeur des icebergs »,« Crépuscule des océans »,« Solitude solo »,« Solitude duo » et « Quatuor tristesse ». Créé à l'Agora de la danse en 2001, « Amour, acide et noix » demeure sans doute son œuvre la plus emblématique. Présentée pendant de nombreuses années en Europe, aux États-Unis et au Canada, elle propulse sa carrière sur la scène internationale. Au total, Daniel Léveillé aura créé 28 œuvres diffusées dans 25 pays, un rayonnement remarquable pour un artiste dont la démarche est demeurée résolument indépendante et fidèle à ses convictions. Parallèlement à sa carrière de créateur, Daniel Léveillé a consacré une part importante de sa vie à l'enseignement. De 1988 à 2013, il enseigne la composition et la chorégraphie au département de danse de l'Université du Québec à Montréal. Pendant un quart de siècle, il accompagne et forme de nombreux artistes qui marqueront à leur tour la scène contemporaine québécoise, parmi lesquels Frédéric Gravel, Dave Saint-Pierre, Catherine Gaudet, Étienne Lepage et Manuel Roch. Réputé pour sa générosité intellectuelle autant que pour ses exigences artistiques, il poursuivait souvent son accompagnement bien au-delà des salles de cours. Il aidait les jeunes créateurs à développer leur carrière, à diffuser leurs œuvres et à trouver leur place dans le milieu professionnel. Cette volonté de transmission se manifeste également par la création en 2010 d'un programme de mentorat au sein de sa compagnie. Parmi les artistes qui en bénéficieront figure Frédéric Gravel, qui lui succède naturellement à la direction artistique de DLD en 2018. À l'annonce de son décès, Gravel a rendu hommage à celui qu'il considérait comme son mentor et son allié, soulignant l'immense contribution de Daniel Léveillé au développement de la danse contemporaine québécoise. Les distinctions reçues au fil de sa carrière témoignent de l'importance de son apport. Son œuvre, Solitude Solo, lui vaut notamment le prix de la meilleure œuvre chorégraphique au prix de la danse de Montréal en 2012. En 2017, il reçoit le Grand Prix de la danse de Montréal, la plus prestigieuse reconnaissance accordée dans son domaine. Mais au-delà des honneurs, c'est l'empreinte humaine et artistique qu'il laisse qui demeure exceptionnel. Daniel Léveillé aura consacré sa vie à sonder les mystères du corps et de la condition humaine. Pour lui, la création était indissociable du désir de vivre. Comme le rappelle le communiqué publié par sa compagnie à la suite de son décès, pour Daniel Léveillé, création et pulsion de vie sont intimement liées. L'activité créatrice étant essentiellement la mise en jeu du désir. Avec sa disparition, le Québec perd l'un de ses plus grands chorégraphes contemporains. Son œuvre continue toutefois de vivre à travers les artistes qu'il a inspirés, les générations qu'il a formées et les spectateurs qu'il a profondément touchés. C'était Daniel Léveillé, 1952-2026, un maître de la danse contemporaine s'éteint, un texte de Fabien Philippe, paru le 10 juin 2026 dans Fugue.